Alors, on va commencer notre 53e leçon sur notre série sur l'histoire de l'Église. Alors, ce soir, on avait commencé, lors des leçons précédentes, à étudier le premier grand réveil évangélique et aussi le deuxième. Et on sait qu'il y en avait six. Maintenant, j'ai calculé que c'était avantageux pour les personnes qui vont écouter les séries d'interposer quelques notions que les chrétiens se doivent de savoir sur les réveils. Alors, il va y avoir trois parties. Ce soir, nous allons voir la partie 1. Alors, dans la partie 1, nous allons voir le besoin des réveils, les obstacles au réveil et la préparation au réveil. Alors, on avait vu dans les deux premières, dans les leçons précédentes, le premier grand réveil évangélique qui avait eu lieu entre 1725 et 1775, le deuxième, on avait vu la semaine dernière, entre 1792 et 1822. Alors, les autres quatre grands réveils, on va les voir après les trois leçons qu'on vient de mentionner. Alors, on va commencer par le premier point, le besoin des réveils chrétiens. Alors, les chrétiens sont unanimes pour constater que notre époque est en crise. La société est en crise, l'Église est en crise. Comment cette crise se manifeste-t-elle? Alors, il y a un besoin général. Alors, le besoin général, on voit que la véritable foi est virtuellement disparue. Alors, on peut voir dans le verset 2e Épître à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 3, qui avait été prophétisé, et Paul qui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » N'est-ce pas que c'était un portrait assez exact de la société dans laquelle on vit maintenant? Alors, dans le verset 5, on avait « ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Alors, le besoin général s'exprime parce que la véritable foi est virtuellement disparue, aussi parce que de plus en plus, la déité ou la divinité de Jésus-Christ est mise en doute. Alors, les libéraux et d'autres affirment qu'il était seulement un grand homme, un grand réformateur, etc. Troisième besoin, c'est qu'il y a une certaine forme maintenant d'apologétique qui veut prouver que la Bible est vraie, plutôt que d'assumer qu'elle est vraie. Quatrième chose qu'on voit, c'est qu'on voit l'apparition incessante de nouvelles traductions plus ou moins fidèles aux textes originaux. Alors ça, c'est encore plus, je dirais, présent dans les milieux anglophones que dans les milieux francophones. Mais même dans nos milieux francophones, on voit l'apparition de traductions qui sont vraiment, vraiment plus ou moins fidèles. Cinquième chose, l'influence des médias et de la publicité qui nous inondent d'idées et de valeurs mondaines. Il ne faut pas sous-estimer le rôle des médias et de la publicité dans ce fait-là. Aussi, sixième chose, une évangélisation populiste plutôt que biblique. Et septième, l'envahissement graduel des églises par le libéralisme religieux, alors par l'idolâtrie de la science qui s'exprime par l'évolutionnisme, le remplacement de la Bible par la psychologie, le désir du surnaturel et du miraculeux. On voit ça de plus en plus dans beaucoup d'églises. Les gens veulent avoir des miracles, veulent avoir des choses semblables. L'abandon de la théologie biblique et de la doctrine et l'introduction de toutes sortes de formes de nouvel âge dans l'Église. Il ne faut pas penser que c'est juste de la théorie, ça. Toutes ces choses-là sont vérifiables. Et moi, personnellement, j'en ai vu dans des églises, dans des villes comme Sherbrooke, l'introduction de la psychologie dans des églises évangélique est très avancée, beaucoup plus qu'on pense. Huitième, l'envahissement graduel des églises par la mondanité. Neuvième, le refroidissement spirituel. Alors, les cultes sont au minimum. il y a peu ou pas de vie de prière, peu ou pas de lecture attentive de la Bible, peu ou pas de culte personnel ou de famille au quotidien, peu ou pas d'évangélisation personnelle, peu ou pas de véritable amour fraternel, des vies dominées par le rock, le cinéma, la radio, la télé et l'Internet. Dixième chose, les scandales religieux. On sait qu'aux États-Unis, ça a vraiment, à un moment donné, dans les années 70, 80, 90, il en est arrivé une trollée, comme on dit. Alors, les scandales religieux où les leaders étaient pris dans des affaires de sexe, des affaires de poursuite d'argent, de renommée et des divorces. La onzième chose, le retour graduel des dénominations sous la domination du catholicisme romain. Alors ça, aux États-Unis, c'est particulièrement avancé, et même dans le monde, les grandes dénominations sont en train de retourner sous la jupe de Rome. C'est très, très... On peut démontrer ça facilement. Donc, il y a un besoin qui est général à cause de tous ces facteurs-là, et il y a un besoin aussi dans nos vies personnelles. Alors, le psaume 138, verset 7, dans la version David Martin, ça dit « Si je marche au milieu de l'adversité, tu me vivifieras. » Psaume 119, verset 25, « Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. » Alors, on a aussi le besoin dans nos vies d'Église, non seulement dans nos vies individuelles, mais aussi dans nos vies d'Église. Alors, le psaume 85, verset 6, « Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? » Osée, chapitre 6, verset 1, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. » Acte 4, verset 31-33. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. » On a également le psaume 77, versets 7 à 12. « Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. » Alors, on voit le besoin à cause du besoin général, le besoin dans les vies des individus, les besoins dans les vies d'Église, et on pourrait vraiment beaucoup développer ce point-là. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est les obstacles au réveil chrétien. Alors, il y a des obstacles généraux, il y a des obstacles spécifiques. On va commencer par les généraux. Le premier obstacle, c'est de croire que nos problèmes sont uniques et nouveaux. Alors, nous sommes inspirés pour cette section de notre étude de l'excellent ouvrage du grand pasteur et érudit anglais Martin Lloyd-Jones, dans son livre intitulé « Revival ». En passant, c'est un excellent livre sur les réveils. Martin Lloyd-Jones fait un travail extraordinaire dans ce livre-là. Alors, beaucoup des idées dont on va parler viennent de lui, là. Alors, Lloyd-Jones utilise très habilement l'exemple d'Isaac dans le livre de la Genèse pour illustrer son propos. Alors, il utilise le chapitre 26, les versets 17 à 22, qui dit « Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Ézec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Alors, le problème d'Isaac était l'eau, qui était un besoin primaire, et la vie elle-même, parce que, bien entendu, dans ces pays-là, pas d'eau, il n'y a pas de vie. Alors, sa situation était urgente et désespérée. Maintenant, on va regarder ce que Isaac ne fit pas. Il n'eut pas recours aux experts et aux prospecteurs, les scientifiques, la philosophie, la psychologie, pour trouver une formule pour rendre le message acceptable aux gens de ce siècle de la fission nucléaire. Ce qu'il fit fut de regarder aux expériences du passé, les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham et qui avaient été comblés par les Philistins. La philosophie darwinienne, qui est l'évolution, croit que l'humanité progresse et il semble que l'Église ait en grande partie adopté cette philosophie. Cependant, Dieu est le même et l'homme est le même. Jugeons-en par les intérêts des hommes de cette époque et ceux de nos jours. Boire et manger, faire la guerre, la poursuite de l'argent et des biens matériels, le sexe et les problèmes sous toutes ses formes, les plaisirs sous toutes ses formes. Jugeons-en également par ces problèmes, le vol, la fraude, la jalousie, l'envie, l'infidélité, le divorce, les perversions et les péchés sous toutes ses formes. Alors, lui, il dit que le premier obstacle, c'est de croire que nos problèmes sont uniques à notre époque. Alors, lui, il dit que les problèmes des hommes ont toujours été les mêmes, peu importe les époques, que c'est juste les formes qui changent. Alors, le premier principe pour corriger ce premier obstacle-là, de croire que nos problèmes sont uniques et nouveaux, il dit, c'est la prise de conscience que l'histoire de l'Église en est une qui est faite de haut et de bas. Les hauts sont caractérisés par des croyants remplis de vie, de vigueur et de pouvoir. Les chrétiens prient beaucoup et fervemment. Les croyants assistent très régulièrement à leur culte. Les croyants dévorent littéralement les Saintes Écritures. Les croyants se repentent. Les croyants évangélisent. Les croyants aiment vraiment leurs frères et leurs sœurs. Les croyants servent et produisent d'innombrables œuvres qui manifestent clairement l'authenticité de leur foi. En un mot, ils sont proches du Seigneur et ils sont obéissants. Rappelons que les historiens reconnaissent que l'Angleterre, par exemple, a été sauvée d'une révolution sanglante semblable à celle de la France par l'évangélisation très active qu'il y a eu à cette époque-là. Alors, on vient de parler des hauts, maintenant les bas. Les bas sont la sécheresse spirituel, l'apathie, le formalisme, le témoignage collectif et personnel avec peu d'impact, la mondanité, la désobéissance au Seigneur. Alors, le premier principe correctif, c'est vraiment de prendre conscience qu'au cours de l'histoire, ce sont des choses qui sont toujours arrivées. Deuxième principe correctif, il nous faut redécouvrir le passé et réaliser que la provision en eau, qui est le Saint-Esprit, est disponible. Alors, il prend l'image des puits et il fait l'image suivante. L'eau, c'est comme le Saint-Esprit. Autant Isaac regardait les puits qui avaient été creusés par Abraham, qui avaient été remplis de sable par les Philistins. Alors, lui, il dit que nous aussi, on se doit de regarder dans le passé pour examiner comment Dieu, dans le passé, a ramené l'eau, autrement dit, le principe vital de la vie. Le troisième principe correctif, on se doit de prendre conscience que les puits ont été bouchés par les Philistins. Donc, les Philistins, dans son illustration, dans son exemple à lui, c'est tous les ennemis de l'avancement du royaume de Dieu. Autrement dit, comme l'eau, selon lui, c'est comme l'évangile pur, mais que les Philistins ont fini par boucher les sources d'eau en mettant toutes sortes de cochonneries par-dessus, que ça a fini par enlever toute la pureté de l'eau. Alors, les puits ont été bouchés par plusieurs choses. Le rationalisme. Le rationalisme, c'est cette doctrine selon laquelle toute connaissance certaine vient de la raison et s'exprime par la croyance et la confiance dans la raison opposée à la religion. Le phénomène n'est pas nouveau. Vers le milieu du 17e siècle, le développement de la science vida les églises. Autrement dit, quand l'homme commence à se fier sur sa raison et à écarter la foi, bien entendu, il se produit des phénomènes. Alors, c'est vraiment le phénomène comme l'équivalent de remplir une source d'eau et du sable. Vraiment, c'est comme le rationalisme finit par étouffer la véritable foi. Aussi, les puits ont été bouchés par le manque d'unité. Il existe aujourd'hui une unité fausse et mensongère, basée sur un supposé amour. La véritable unité doit combiner l'amour et la vérité. Ça, c'est bien important parce que de nos jours, à cause du grand mouvement œcuménique, on se pète les bretelles comme de quoi on vit un grand moment d'unité, de réunification des forces chrétiennes, alors qu'on le fait uniquement sur la base de l'amour, entre guillemets, là, mais non pas l'amour et la vérité. Mm. On sait que le Seigneur nous a toujours dit que l'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas juste unir une gang d'hommes qui disent avoir la foi uniquement sur la base de l'amour, entre guillemets, réellement, entre guillemets, parce que ce n'est pas nécessairement du véritable amour, mais au dépend de la vérité. Alors, quand on regarde le mouvement œcuménique moderne, on voit que la vérité, des fois, elle a pris le bord un peu. Alors, dans Jean 4, 24, Dieu nous a dit, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Pas « où » et « en vérité ». On a dans Acte 4, versets 11 et 12, aussi un autre principe. « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Je ne sais pas si vous avez vu la dernière déclaration du pape, officielle, sur Internet, vous pouvez aller avoir n'importe quel temps. Il déclare que toutes les religions sont bonnes. Alors, il vient contredire ce que les Écritures disent. Les Écritures, lui, il dit que toutes les religions sont bonnes, puis on devrait s'unir pour avoir une religion mondiale. Alors que les Écritures disent que si... il n'y a pas de salut en d'autres qu'en Jésus-Christ. Alors, eux disent oui, avec les Bouddhas, tu peux, avec les Allah, tu peux, etc., etc. Alors, c'est à nous de faire notre choix. Ou on croit ce que les Écritures disent, ou on croit ce que les supposés bâtisseurs de l'Église mondiale est en train de se construire. Alors, nous devons savoir que les véritables réveils apportent toujours à la fois la véritable unité et la division. Pour donner un exemple de ça, par exemple, rappelons que les méthodistes furent jetés dehors de l'Église anglicane, qui était à l'époque froide, presque morte, formaliste, gangrénée par le libéralisme. Pourquoi ils l'ont fait? À cause de que les méthodistes qui étaient vraiment zélés, ils s'étaient éloignés du formalisme. Et il s'était exprimé d'une façon différente. Donc, les méthodes d'évangélisation, prêcher dans les rues, prêcher dans les champs, pour les anglicans de l'époque, c'était un scandale. Alors, ils ont carrément mis dehors. Alors, on voit quand la véritable vie veut se réinstaller dans une église qui est en train de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? On les jette dehors. Alors... Et il y avait quand même s'il avait été évangélisé, peut-être pas nécessairement avec la doctrine de la souveraineté de Dieu, mais il y avait quand même, je crois, un bon nombre de ces personnes-là qui étaient véritablement régénérées. Donc, on a regardé les principes généraux. Maintenant, on regarde les principes spécifiques. Les principes généraux, c'est les principes qui s'adressent à l'ensemble, tandis que les principes spécifiques, c'est vraiment plus des principes qui s'adressent à nous, comme croyant individuel. Donc, les obstacles qui sont spécifiques, c'est vraiment l'incrédulité. Alors, les puits d'eau sont bouchés parce que les vérités sont cachées et couvertes par le sable du mensonge. Et quand on regarde dans Genèse 26, 15, ça dit « Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père. Les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Alors, je trouve que l'image qu'il utilise pour montrer un équivalent en termes spirituels est vraiment bien, moi, je trouve. Alors, le sable du mensonge, c'est le déisme. On sait que ça a été des problèmes au cours des siècles. Le rationalisme, mettre la raison au-dessus de la foi. L'arianisme, qui niait au cours des siècles, sous différentes formes, l'éternité et la déité de Jésus-Christ. L'unitarisme, alors il faut remarquer que chez les unitariens, eux qui renient la Trinité, il n'y a jamais eu de réveil. Alors ceux qui étudient les réveils, ils voient qu'il y a eu des réveils dans beaucoup de dénominations, mais les unitariens, il ne s'est rien passé. Alors à cause du fait que, justement, l'incrédulité. Bien entendu, le catholicisme, les sciences occultes, le panthéisme. Alors, ce sont tous des choses qui, à force de s'intégrer dans les églises, de s'introduire sur le nom humain dans les églises graduellement, ont fini par étouffer les sources d'eau. Alors, nous devons redécouvrir l'eau, la souveraineté de Dieu, ses miracles, ses interventions régulières et périodiques dans l'histoire de son peuple. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de regarder que Dieu, de façon courante, périodique, est intervenu dans l'histoire de son Église pour réveiller, parce qu'il est en train de quasiment de mourir, et le Seigneur permet des mouvements par le Saint-Esprit comme ça pour les remettre sur les rails, en quelque sorte. Alors, on se doit de redécouvrir l'infinie sainteté de Dieu, la Trinité, la déité de Jésus-Christ, la justification. Aujourd'hui, là, dans les églises nord-américaines, si vous iriez dans, disons que, je sais pas, il y a plusieurs millions de chrétiens, là, si on les passait un par un, puis on leur demanderait, explique-moi donc c'est quoi la doctrine de la justification, combien sont capables de le faire. C'est vraiment alarmant quand tu vois qu'une église ne comprend pas des principes aussi fondamentaux que la justification, le décalogue, l'autorité de la Bible, c'est une chose aussi qui se perd de plus en plus. Et donc, on va nier l'inspiration, on va nier la préservation, on va nier l'inhérence. L'inhérence, c'est tout simplement dire qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Mais il y en a qui disent, ah oui, il y a des erreurs dans la Bible. Et là, ils t'en pointent quelques-unes. Alors, quand tu commences à accepter des idées de même, tôt ou tard, ta foi en les Écritures diminue, pique du nez, et le libéralisme s'installe dans les églises. Autre chose qu'on a besoin de ramener, pour l'eau pure, autrement dit, l'absolue corruption et l'incapacité de l'homme à se sauver lui-même, ce que nous, on appelle le total depravity and inability, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, l'homme est dépravé totalement, mais ils disent, mais l'homme a le pouvoir de choisir Dieu. Alors, il oublie la deuxième partie, mais si tu l'oublies, tu es en train de prendre de l'eau pure puis de mettre de l'eau impure dedans. Alors, qu'est-ce que lui dit? Si tu veux ravoir les puits comme ils étaient avant, il faut que tu prennes les doctrines qui sont vraies, il faut que tu les ramènes en avant, il faut que tu les prêches, il faut que tu éduques ton peuple, il faut que les gens reviennent à la vérité. Moi, je suis parfaitement d'accord avec lui. Et l'autre chose, l'enfer éternel. Aujourd'hui, selon des statistiques officielles, quand on a fait notre sermon sur l'enfer, je pense que c'est Barnum and Barnes, je ne me souviens plus institutions d'enquête aux États-Unis, de sondage, disent que les chrétiens même, là, ils ne parlent pas des païens, là. Ils interviewent pas des païens pour leur demander s'ils croient à l'enfer. Ils interviewent des chrétiens pour leur demander s'ils croient à l'enfer. Puis il y a un nombre, je ne me souviens plus du nombre, mais c'est extraordinairement élevé. Alors, on a besoin de redonner de la doctrine aux gens pour qu'ils comprennent ces choses-là, sinon on s'en va. Les sables des Philistins vont complètement remplir nos puits. Alors, pour pouvoir boire de cette eau, nous devons redonner sa pureté à l'eau qui s'exprime dans l'ensemble de toutes ces doctrines-là qu'on vient de parler. Et bien d'autres, dans le fond. Dans le fond, c'est de revenir aux Écritures, puis d'y croire, puis d'obéir. Autre facteur, l'impureté doctrinale. Alors, on se doit de retrouver l'orthodoxie doctrinale dans nos doctrines. Sur Dieu, sur la Sainte Bible, sur l'homme. Nous devons approfondir nos connaissances sur le Seigneur Jésus-Christ, sa déité, son éternité, son égalité avec Dieu, étant Dieu lui-même, sa naissance virginale, ses miracles, sa résurrection, son ascension, son œuvre de rédemption et de justification. En un mot, on peut dire, le réveil, c'est la glorification du Seigneur Jésus-Christ. Mais si ces doctrines-là, on est en train de dire que Jésus est venu au monde d'une femme ordinaire, que ce n'était pas la naissance virginale, tu viens de détruire un fondement de la foi chrétienne. Par exemple, la même chose pour la résurrection, la même chose pour les miracles. Tout ce qu'on vient de nommer là, il faut ramener ça à l'avant, puis que tous les chrétiens soient fondés dans ces doctrines-là, sinon on est en train de s'en aller, on dérive, autrement dit. Alors, il nous faut récupérer aussi toute la richesse de la doctrine du Saint-Esprit et de son rôle dans les réveils et de son œuvre en général. Le livre du pasteur et théologien George Smeaton, qui a vécu entre 1814 et 1889, qui s'appelle « The Doctrine of the Holy Spirit », semble-t-il, est un classique des plus utiles et hautement recommandé par plusieurs. Semble-t-il que c'est un des meilleurs livres qui a jamais été écrit sur le Saint-Esprit. Mm-hmm. Alors, je lisais cet après-midi, il disait « Beaucoup de chrétiens ont des connaissances raisonnables sur Dieu et sur Jésus-Christ, mais quant à leur connaissance sur le Saint-Esprit, c'est vraiment pauvre. » Alors, on a besoin de ramener ça en avant pour comprendre mieux toutes ces choses-là. Je ne dis pas que c'est le cas dans l'Église ici, là, mais on parle là, de l'ensemble de l'Église dans le monde. Troisième facteur spécifique, l'orthodoxie défectueuse. Alors, certaines doctrines essentielles se doivent d'être étudiées avec beaucoup plus de sérieux et d'attention si nous ne voulons pas perdre toute leur beauté, leur richesse et leur profondeur, comme la justification, la régénération, la seigneurie de Christ dans la vie des croyants. Alors, la seigneurie de Christ dans la vie des croyants, il ne suffit pas de croire que Christ a fait une œuvre, puis qu'après ça, vivre notre vie comme on veut. Ça, c'est pas la seigneurie. Alors, il faut que tu prennes le Seigneur et le Sauveur. Tu ne peux pas prendre juste le Sauveur, pas prendre le Seigneur en même temps. Alors, ça, c'est tous des dangers qui nous guettent, puis qui sont très omniprésents. Surtout aux États-Unis actuellement, je dirais aussi en Europe, ici au Canada aussi. Alors, on se doit de porter une attention particulière à la balance et à l'équilibre afin d'éviter les suremphases particulières sur des aspects de la doctrine. Alors, il y a des églises qui sont dérapées aux États-Unis. Quand tu commences dans une église à parler uniquement de l'Apocalypse ou à parler uniquement des prophéties ou à parler, que tu mets toute l'emphase sur la glossolalie ou les langues ou sur l'eschatologie. C'est pas de la théorie, ça, là. C'est courant aux États-Unis. Alors, il faut faire très attention pour garder, comme on dit, la balance et l'équilibre dans l'enseignement des doctrines. Alors, on ne doit pas confondre non plus les rencontres de masse de professants comme étant de véritables croyants. Nous ne devons pas laisser entrer les pratiques charnelles et mondaines dans nos cultes d'adoration. Justement, quand on a eu notre cours sur le worship par le docteur Joseph Piper, quand on est allé à Saint-Jérôme, justement, il nous a rappelé beaucoup de principes fondamentaux à faire attention de ne pas laisser entrer toutes sortes de choses dans notre culte. Parce que c'est rendu comme ça. La musique, les spectacles, le théâtre, les amusements, les éclairages et bien d'autres choses encore. Alors, il faut faire attention. Alors, les cultes, ce n'est pas des divertissements musicaux, ce n'est pas non plus des divertissements théâtraux, et il faut garder la centralité de la prédication de la parole de Dieu, très important. Et il y a une autre chose spécifique qu'il voit, lui, c'est ce qu'en anglais, il appelle ça « dead orthodoxy ». Autrement dit, « dead orthodoxy », c'est l'orthodoxie morte. Autrement dit, une église peut avoir la bonne doctrine. Cependant, ce n'est pas accompagné d'une véritable, ce qu'on pourrait appeler, orthopraxie. L'orthodoxie, c'est de croire les bonnes choses. L'orthopraxie, c'est de faire les bonnes choses. Alors, si tu fais juste croire dans ta tête les bonnes choses, mais que tu ne mets pas en pratique, alors tu peux avoir une église qui, doctrinalement, tu poserais des questions à tout le monde, et tout le monde serait droit, là. Orthodoxie, ça le dit, c'est droit. Alors, orthodoxie. Mais d'un autre côté, tu regarderais leur vie, puis tu te rendrais compte que, dans le fond, ils ne mettent pas en pratique que ce qu'ils savent. Alors ça, c'est ce que les anglophones appellent « dead orthodoxy ». Alors tu peux avoir, croire les bonnes choses, mais ne pas pratiquer les bonnes choses. Les deux vont ensemble, ça ne se divorce pas. Alors la doctrine orthodoxe vraie doit être accompagnée d'obéissance dans la vie pratique. On dit souvent que l'orthodoxie doit commander l'orthopraxie. Alors le plus grand de tous les obstacles et des dangers est l'autosuffisance et la croyance qu'uniquement croire les bonnes choses est nécessaire. Alors oui, il faut que tu croies les bonnes choses, mais oui, il faut que tu pratiques les bonnes choses. Les deux vont ensemble. Si tu ne fais pas les deux, alors il risque que ce soit une adhésion une foi uniquement intellectuelle, et ça c'est très dangereux. Ça le dit, les anglophones en parlent souvent dans des livres. Le « dead orthodoxy », c'est rien de plus dangereux que ça, parce que les gens ont la bonne doctrine, mais ils ne mettent rien en pratique. Alors, la preuve que ça, c'est ce que Jésus lui-même dit dans Matthieu 7. Moi, c'est un passage des Écritures qui me fascine et qui me presque terrorise en même temps. Parce que le Seigneur, il ment jamais. Et voici ce qu'il dit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Je pense que ce n'est pas trop difficile de se rendre compte que le Seigneur ne parle pas de véritable pluie, ni de véritable torrent, ni de véritable vent. Il parle de choses qui vont arriver, qui vont être l'équivalent de ça, comme le vent de la fausse doctrine. Alors, si on n'est pas fondé sur le roc, comme on a vu tantôt, on va se laisser emporter par ces choses-là. Il faut absolument être fondé sur le roc. Alors, on doit se méfier de l'attitude qui consiste à dire « Parlez-nous doucement sans nous déranger. » Quand une Église commence à ne plus recevoir les reproches ou les réprimandes, il y a un danger là-dedans. Alors, on doit vraiment se méfier de cette attitude-là. On se doit de garder un équilibre et une balance dans l'utilisation à la fois de la raison et de l'émotion. Nous devons garder la décence et l'ordre. Alors, souvent, on peut être porté d'aller des deux extrêmes. Je ne sais pas si vous voyez souvent dans les églises aujourd'hui où tu as l'extrême de la raison. Autrement dit, tout est bien rangé, tout est en ordre, tout est correct. Et c'est correct. Mais il ne faut pas non plus faire mourir la place à l'émotion. Il y a de l'émotion dans la véritable foi. Il faut garder l'équilibre. Quand on embarque puis qu'on s'en va uniquement dans le côté de l'émotion, comme certaines dénominations font, ben on voit qu'est-ce que ça fait, on s'égare. Les Écritures nous disent de faire les choses avec ordre, bienséance, et ça implique qu'il y a un équilibre et une balance entre les deux. Oui, il y a de la place pour la raison, mais oui aussi, comment ne peut-on pas s'émouvoir devant Dieu, devant Christ, devant le Saint-Esprit, devant le salut, devant toutes autres choses qu'on lit dans les Saintes Écritures. Alors, gardez l'équilibre. Et cinquième chose, l'inertie spirituelle. Alors, on se doit de faire attention à appliquer les vérités que le Seigneur nous donne. La méditation peut s'avérer très utile pour arriver à le faire systématiquement. Les sermons, les lectures doivent nous amener à ressembler davantage à Jésus-Christ et non pas seulement à croître nos connaissances. Nous devons chercher à augmenter notre connaissance intime de Dieu et de Jésus-Christ. L'absence de croissance chez un croyant, entre guillemets, est un très mauvais signe. Nous devons redécouvrir ce que signifie agir pour la gloire de Dieu. Troisième point qu'on va regarder, c'est vraiment la préparation du réveil chrétien. Le réveil est un acte souverain de Dieu, comme on l'avait déjà vu, qui ne peut être empêché, ni commandé, ni promu ou aidé. C'est un phénomène purement divin. Cependant, le réveil n'est pas une attente passive. Dieu envoie toujours ses réveils en préparant ses serviteurs à les demander en prière et à se réformer individuellement et collectivement. C'est l'aspect de la responsabilité humaine. Je lisais un article cette semaine dans une revue qui est écrite par Tom Nettles, qui parlait des réveils et Reformation and Revival go together. Si tu ne peux pas demander un réveil, juste des prières, demander à Dieu qu'il t'envoie un réveil, si il n'est pas précédé par une réformation de dans ta vie personnelle et dans la vie corporative de l'Église. Alors, il dit les deux vont ensemble. Alors, quels sont les éléments de cette préparation-là qui font partie de notre responsabilité humaine? La pleine réalisation qu'il est vivant. Donc, on oublie parfois que Jésus-Christ est vivant. Acte 1, verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, on a besoin de réaliser qu'il est vivant. La deuxième chose, on a besoin de reconnaître nos besoins. Alors, acte 1, verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Le témoignage universel, donc, il faut réaliser qu'il est vivant, il faut réaliser qu'on a des besoins, il faut réaliser qu'il nous a demandé de témoigner universellement. Mais vous recevrez une puissance, le Acte 1, 8, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Autre élément, l'unité, acte 1, verset 14, « Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Bien entendu, dans le même verset, on a l'insistance, donc il y a une place, c'est le commun accord, donc c'est l'unité. L'autre, c'est vraiment plus l'accent mis sur la prière, acte 1, verset 14, « Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » L'alignement actif avec les Saintes Écritures. Bien entendu, on ne peut pas se préparer à un réveil sans faire ce qu'on a dit tantôt, ramener la doctrine en avant et la promouvoir et chercher ce que les gens s'intéressent de plus en plus aux Saintes Écritures. Acte 1, verset 20-26. « Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. » Donc, l'élément important dans la préparation d'un réveil, c'est vraiment se réaligner sur les Saintes Écritures. Alors, la réformation individuelle et corporative et le réveil sont des jumeaux inséparables. Sans la réformation scripturaire, des réveils peuvent dérailler. Prenons par exemple celui de l'Indonésie et le comportement des charismatiques. Un autre exemple est celui du leader Evan Roberts lors du réveil de 1904 au pays de Galles, qui favorisa grandement l'approche subjective, donc l'écoute de ses émotions, l'écoute de ses sentiments, l'écoute de sa voix intérieure, plutôt que l'approche objective, et l'encadrement de la doctrine et des pratiques par la Bible. Alors, en 1904, Evan Roberts, il y a eu un grand réveil qu'il y a eu au pays de Galles. Il s'est mis à écouter son intérieur, ce qu'il croyait être des révélations du Saint-Esprit, et là, il a insisté sur l'aspect subjectif, et non pas basé sur les Saintes Écritures. Et ça l'a déraillé. Ça a marché un bon bout de temps, mais à un moment donné, à cause de cette approche-là, alors quand Dieu envoie un réveil, il ne faut pas que tu te laisses aller à tes émotions, puis à écouter des petites voix intérieures, puis à écouter les supposées prophéties qu'un ou l'autre dit. Il faut que tu demeures centré sur les Saintes Écritures. Ça, si tu fais ça, tu es sûr que le réveil russe risque d'être plus fructueux et de durer plus longtemps. Alors, on se doit aussi d'être attentif à ne pas céder à des compromis. On a l'exemple, par exemple, de Joseph A, qui était un homme de Dieu, qui avait fait des compromis avec Achab. Alors, le même danger nous guette aussi. Des fois, des personnes peuvent venir nous voir avec une bonne cause, nous demander de travailler ensemble, de collaborer, faire attention, pas collaborer avec les ennemis de Dieu. Alors, on lit dans 2 Chroniques, chapitre 19, verset 2, « Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui, et il dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. » Et septième chose, se souvenir des œuvres de Dieu dans le passé, c'est ce qu'on est en train de faire avec les différents, mais on le fait tellement superficiellement. Je peux vous dire une chose, étudier 6 grandes périodes de réveil qui ont duré des fois 30-40 ans, et voir ça dans une demi-heure, on fait vraiment plus qu'un survol. Là. On fait vraiment... Alors, c'est sûr que se souvenir des œuvres de Dieu, regarder ce qu'il a fait, comment il a procédé, c'est des encouragements. Alors, le psaume 118, versets 1 à 8, cantique d'Asaph, « Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à nos enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. » Et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Alors les versets 3 et 4 dans ce passage-là nous parlent de se souvenir et de transmettre. Alors les gens qui ont écrit sur les réveils, le but de ça, c'était pas juste pour voir, c'était pour que d'autres puissent prendre conscience de ce qui s'est passé dans le passé. Non seulement ils l'ont écrit, donc ils ont voulu qu'on se souvienne, mais ils ont voulu aussi le transmettre. Ces livres-là existent encore. Il y a des gens qui les lisent, il y a des gens qui sont au courant de toutes ces choses-là. Alors, puis le verset 7, lui, nous parle d'avoir confiance en Dieu. Et le verset 8 nous informe qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé comme le peuple d'Israël le faisait. Alors, l'Inde a été grandement influencé par le réveil du pays de Galles de 1904. L'Église chrétienne des Indes a connu à cette époque-là une croissance de 70% durant ce réveil-là. Psaume 85, versets 6 et 7, « Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi. Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. » Alors, j'ai pris le même verset, mais dans la King James, parce qu'il utilise le mot « revive ». Alors, dans la version King James, ça dit « Will thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Show us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. » C'est vraiment « revive » et « revival ». Alors, ici, on dit, il demande au Seigneur de les redonner la vie. Habacuc, chapitre 3, verset 2, dans la version Darby. « Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu as déclaré, j'ai eu peur. Éternel, ravive ton œuvre au milieu des années. Au milieu des années, fais-la connaître dans la colère, souviens-toi de la miséricorde. Dans la King James, ça dit, « O Lord, I have heard thy speech and was afraid. O Lord, revive thy work in the midst of the years. In the midst of the years, make known. In wrath, remember mercy. » Alors, je vois trois implications qu'on peut faire à partir de l'étude très brève de ces trois aspects-là. Alors, première application, pour obtenir le réveil, il faut d'abord reconnaître notre besoin. La société est en crise et une bonne partie de l'Église est aussi en crise. Seule une intervention divine et directe peut apporter les correctifs lorsque les choses ont dépassé un certain stade de dépérissement. Prions le Seigneur de nous montrer l'ampleur de nos besoins, tant individuels que collectifs, afin que nous sachions que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Deuxième application, examinons-nous individuellement et corporativement pour voir si nous pouvons détecter les obstacles suivants dans nos vies. La croyance que nos problèmes sont uniques et nouveaux. Prions pour que nous ayons le courage d'apporter les correctifs nécessaires en se rappelant que l'histoire de l'Église est composée de haut et de bas. Se rappeler les interventions divines dans le passé. Se rappeler que les puits ont été bouchés par les Philistins, donc le rationalisme et le manque d'unité. Examinons aussi sous l'angle de la présence de l'incrédulité dans nos vies, la présence d'impuretés doctrinales, d'orthodoxies défectueuses ou d'orthodoxies mortes, de la présence d'inertie spirituelle. Que le Seigneur nous libère de tous ces obstacles. Troisième application, avons-nous adopté une attitude passive, défaitiste et fataliste face à tous nos problèmes? Devons-nous rappeler à nos mémoires que Jésus est vivant, que le témoignage de l'Évangile est une obligation et un ordre du Seigneur, que nous devons être unis dans la prière et dans l'alignement de nos vies avec les commandements des Saintes Écritures et que l'Éternel a régulièrement et périodiquement intervenu dans les affaires des hommes, dans les affaires des églises locales et dans les vies des croyants individuellement. Que notre grand Dieu nous donne de bien comprendre toutes ces choses et de les mettre en pratique dans nos vies par sa grâce et pour sa gloire.
Amen. Amen.